Il est midi et demi, le journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
On a fait des grèves de 24 heures reconductibles, c'est au jour le jour que les agents se positionnent et moi je ne peux pas dire comment se positionneront les gens le 23 ou le 24 décembre.
La réponse très mitigée d'un des principaux syndicats des cheminots au patron de la SNCF qui leur demande de faire une pause à Noël. La SNCF qui se met en ordre de bataille pour acheminer la moitié des voyageurs pendant cette période et on va le voir avec Emmanuel Duteil, cela s'annonce très compliqué. Trafic toujours très perturbé en tout cas en ce dixième jour de grève à la SNCF. Un TGV sur 4, 3 TER sur 10. Côté RATP, les métros ne roulent qu'entre 11h et 18h sur les lignes qui fonctionnent. 10 sont toujours à l'arrêt. Toujours 10 départements en vigilance orange sur le front des inondations dans le sud-ouest comme dans les Pyrénées-Atlantiques.
C'est devenu piscine, tout le salon. Hein. Donc en fait, ça a fait une vague et c'est rempli de tous les côtés.
Attention aux avalanches dans les Alpes, nous dira Valérie Darmon, avec 3 départements en vigilance orange. Nous irons au Havre où l'incendie qui a touché une raffinerie totale cette nuit est désormais sous contrôle. Et puis, qui sera Miss France 2020? L'élection a lieu à Marseille cette année et les habitants espèrent bien qu'elle sera de chez eux.
Ça fait trop longtemps que ça nous fuit, qu'on n'a pas l'écharpe de Miss France à Marseille et cette année, elle va y être.
Et puis, vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Témoignage exceptionnel des ouvriers du chantier de Notre-Dame, 8 mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale. C'est la première fois qu'ils parlent.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Y aura-t-il des trains à Noël? C'est la question que beaucoup de familles se posent à 10 jours de réveillon pour savoir s'ils vont se retrouver au pied du sapin. Hier soir, le patron de la SNCF a demandé aux cheminots de faire une pause. Édouard Philippe a tenu une réunion avec la direction de la SNCF et de la RATP. Et d'ores et déjà, Emmanuel Duteil, la SNCF se met en ordre de bataille pour acheminer, dit ce matin la directrice générale, la moitié des voyageurs. Mais ça s'annonce compliqué.
On promet d'essayer d'accomplir des miracles. Voilà, Fabienne, ce que dit aujourd'hui la patronne des TGV à la SNCF. C'est dire si la situation est très tendue, la compagnie prend un engagement, faire voyager plus de la moitié des passagers. Si vous avez un billet de train pour le premier week-end des vacances de Noël, vous saurez mardi si votre train va rouler ou pas. Ce sera jeudi pour les trains du 23 au 26 décembre. Si c'est bon, vous pouvez être confiant, c'est un train garanti. S'il ne roule pas, la SNCF tentera de vous proposer d'autres horaires et au pire vous serez remboursé. Le plan de transport est très difficile à mettre sur pied. On regarde axe par axe. C'est un véritable travail d'orfèvre, dit un cadre. On est sur l'une des périodes les plus chargées de l'année. La SNCF va privilégier les TGV sur cette période et essayer de mettre des trains sur les lignes sur lesquelles il y a le plus de trafic prévu. Mais elle reconnaît déjà que ça va être dur, par exemple sur l'axe Atlantique et dans les Alpes. Si le mouvement de grève devait fléchir, la SNCF pourrait ajouter des trains dans les derniers jours. Mais ce n'est pas franchement l'ambiance. Jusque-là, on était raisonnablement confiants, mais avec l'appel de la CGT à maintenir la pression, ça complique nos plans, reconnaît un autre cadre.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, vous nous dites donc à l'instant que ça s'annonce compliqué pour faire rouler des trains Noël, d'autant plus que rien ne dit que les cheminots sont prêts à faire une pause comme leur demande le patron de la SNCF. Écoutez à ce propos Didier Matisse, le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire.
Moi, je reste très prudent parce que sur un conflit qui est maintenant très long, on a fait des grèves de 24 heures reconductibles, donc c'est au jour le jour que les agents se positionnent et moi je ne peux pas dire comment se positionneront les gens le 23 ou le 24 décembre, donc à moins que Rachel Picard ait soit une boule de cristal ou alors elle a peut-être eu vent de décision que le Premier ministre allait prendre par rapport à la réforme des retraites et qui irait dans le sens de nos revendications. Il y a eu également une vidéo de Jean-Pierre Farandou pour justement appeler les cheminots à faire une trêve pendant la période de Noël. Là également, je trouve que l'annonce est prématurée parce qu'il reste quand même énormément de jours avant Noël et notamment après la manifestation massive qui aura lieu le 17 décembre. Donc tout peut changer.
Didier Matisse, le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, avec Justin Morin, la CFDT Cheminots, on dit que le meilleur moyen pour qu'il y ait des trains à Noël, c'est qu'il y ait des réponses aux revendications d'ici le 17 décembre. Alors pourquoi une telle situation de blocage? On en parlera dans quelques minutes avec Leïla de Comarmont, journaliste aux Échos et grande spécialiste des questions sociales, auteur des 20 ans qui ont changé la CGT. Elle sera mon invitée. En tout cas, Pour aujourd'hui, le trafic reste très perturbé. Un TGV sur 4, 3 TER sur 10, un Transilien sur 6. Côté RATP, les métros ne roulent qu'entre 11h et 18h sur les lignes qui fonctionnent. 10 sont toujours à l'arrêt. Côté des bus, c'est 60% du trafic qui est assuré. Et puis notez que la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a dû être exfiltrée hier soir du stade de Saint-Ouen où elle assistait à un match de football de 3e division avec le Red Star. Voilà, vous l'entendez, elle a été clairement interpellée par des supporters. Ce matin, elle dit qu'elle est très déçue par l'attitude de ses supporters, mais juge qu'il n'y a rien de dramatique et qu'il s'agit d'un attroupement qui s'est formé avec quelques individus un peu échauffés.
Europe 1 midi 35, Fabienne Lemoyle.
Toujours 10 départements en vigilance orange ce midi à cause du risque inondation dans le sud-ouest. Depuis ce matin, un homme de 76 ans est porté disparu dans le Lot-et-Garonne à Espiens. Il a été emporté par un petit cours d'eau. Fini en tout cas dans les Pyrénées-Atlantiques, la vigilance rouge. Stéphane Place, vous vous trouvez à Bayonne pour Europe 1. On peut dire ce midi, Stéphane, que la situation est en nette amélioration alors que la Nive avait débordé.
Oui, c'est vrai. Ici à Bayonne, il ne pleut plus et le soleil a même timidement refait son apparition. De quoi redonner le moral après une nuit qui a effectivement vu de nouveau la Nive ici en plein centre-ville quitter son lit. Une eau marronnasse qui, malgré les sacs de sable disposés devant les portes, s'est infiltrée dans plusieurs commerces des quais au lever du jour. Dans son agence immobilière, Baptiste constate les dégâts.
Bon, le constat, c'est qu'on a été inondé, qu'on a des dégâts informatiques, des dégâts de mobilier, un petit peu d'eau et de boue. Voilà.
L'eau, malheureusement, elle est allée vraiment jusqu'au bout de l'agence, là.
Elle est allée jusqu'au bout de l'agence, effectivement.
Il y a malheureusement des choses que vous ne récupérerez pas, y compris dans les dossiers.
Oui, tout à fait. Ça nous permet d'archiver. On le prend avec le sourire, évidemment. Il faut. On n'a aucun autre choix.
Nettoyer avant de voir ce mélange de boue et de vases sécher sur les murs et les sols, c'est ce que fait également Dominique, qui tient ici un salon de coiffure.
Depuis hier soir, on est sous les eaux, donc avec la deuxième marée de ce matin, ben ça s'est rempli. Une piscine, en fait, c'est devenu piscine. Tout le salon, hein. Ah ouais. Donc en fait, ça a fait une vague et c'est rempli de tous les côtés.
On a quoi comme moyen là, pour nettoyer ?
Des bras, des éponges, des raclettes et des jets.
Et qu'en est-il, Stéphane, pour le département voisin, le département des Landes ? Là, plusieurs centaines de personnes avaient été évacuées.
Oui, c'est vrai. Alors, nuit calme dans les Landes et situation stable à Peyrorade, cette petite ville où tout un secteur représentant un bassin de population de 600 personnes a été affecté par les inondations. Le niveau de l'eau des gaves réunies ne monte plus, m'indiquait la préfecture. Il se maintient à 5,40 m. Difficile, bien sûr, de prévoir la vitesse de la décrue qui permettra aux habitants qui ont quitté leur domicile hier soir de rentrer chez eux. Mais l'heure est à l'optimisme puisque, nous dit-on, c'est un temps sec sans une goutte de pluie en principe qui est annoncé pour toute la journée ici.
Stéphane Place à Bayonne pour Europe 1. Justement, à la fin de ce journal, on reviendra sur les conditions météo dans ce secteur avec Valérie Darmon qui nous confirmera effectivement, Stéphane, que l'heure est à l'accalmie dans le secteur. À suivre, un important incendie cette nuit dans une raffinerie Total près du Havre. Désormais, on va le voir, la situation est sous contrôle.
Il est midi 39, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
Et direction la Normandie avec un important incendie qui a touché cette nuit la raffinerie Total de Confreville-Lorcher près du Havre. Caroline Baudry, vous êtes sur place, les mises à l'abri ont été levées pour les habitants et désormais, vous me l'avez dit, la situation est sous contrôle.
Oui, ici, près de la raffinerie, il y a encore une légère odeur de brûlé. Sur le site, quelques-unes des cheminées sont encore enflammées. Mais ce midi, l'incendie déclenché à 4h du matin dans une pompe servant à faire circuler le pétrole est totalement maîtrisé. Selon la préfecture, tous les risques chimiques sont écartés. Alors selon Alban Bruno, le maire de Gonfreville, la vie peut reprendre son cours.
C'est des incendies qui arrivent parfois sur ces sites. On était prêt à déclencher tous les systèmes d'information et d'alerte auprès des populations. Le risque a été géré par les services de pompiers en interne au site. Les services de la préfecture étaient sur place. Les pompiers extérieurs étaient sur place pour contrôler que les services de Total géraient la situation. La situation a très vite été sous contrôle. Les populations ne sont pas en danger.
Le maire s'empresse d'ajouter que dans le contexte marqué par l'incendie de Lubrizol, les preuves de l'absence de risque seront bientôt apportées à la population. En attendant, la route industrielle reste bloquée aux abords de la raffinerie.
Caroline Baudry à Gonfreville-Lorcher pour Europe 1 et justement à quelques kilomètres de là à Rouen, l'usine Lubrizol a reçu le feu vert pour reprendre une partie de ses activités. Cela va se faire progressivement à partir d'aujourd'hui. Une question pour finir ce journal. Mais qui, Marlène, sera sacrée Miss France 2020? Mais oui, réponse ce soir. L'élection, elle a lieu à Marseille cette année. Et vous allez l'entendre, les habitants ont déjà un avis très tranché. Reportage Nathalie Chevance.
Depuis 15 jours, les Miss déambulent du Vieux-Port à la Foire aux Santons, des Calanques au Vélodrome, sous les yeux des Marseillais qui forcément ont déjà désigné leur favorite.
Évidemment, Miss Provence, vous voulez qu'on supporte qui d'autre? On l'aime, voilà, on l'aime. Marseille la soutient.
Elle va gagner, c'est obligé. Elle ne peut pas faire autrement cette année. Ça fait trop longtemps que ça nous fuit, qu'on n'a pas l'écharpe de Miss France à Marseille. Et cette année, elle va y être.
En tout cas, toutes les prétendantes revendiquent leur liberté, leur féminité, leur personnalité, la recette pour l'emporter, d'après Sylvie Tellier, directrice générale.
C'est que ces jeunes femmes restent elles-mêmes. On est à la recherche de personnalité. Et d'ailleurs, vous le verrez, elles sont 30 avec une histoire, des engagements. Mais avant tout, je pense qu'il faut aimer les gens. Parce que Miss France est élue par les Français. Et pendant un an, elle va aller à la rencontre des gens. Elle est là pour donner du sourire dans un contexte qui est parfois pas très facile.
Et face aux polémiques, aux critiques sur un concours jugé vraiment trop ringard, Miss France 2019 se défend.
Je lutte contre le harcèlement scolaire. Mais effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être juste belle. On est porté à rencontrer différents publics et à avoir différents sujets. Donc il faut avoir la capacité de répondre, il faut avoir la capacité d'argumenter aussi et surtout de se positionner.
Concours de beauté d'un autre temps, en tout cas le spectacle devrait enregistrer encore une fois un gros succès d'audience. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Nathalie Chevance. Et c'est donc à Marseille, réponse ce soir. Dans un instant, le journal des sports. Bah justement, Marseille, mais qui se déplace à Metz? Ça c'est du football et c'est la 18e journée de Ligue 1.
Le journal des sports.
Avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Fabienne.
18e journée de Ligue 1, je le disais, avec Marseille qui se déplace à Metz cet après-midi et qui veut poursuivre sur sa lancée.
Ah, 6 victoires consécutives en Ligue 1 pour les Marseillais. Un succès les rapprocherait momentanément du Paris Saint-Germain et conforterait leur place de dauphin. Metz peut-il modifier un scénario écrit à l'avance? Pas sûr. Les Messins sont 18e au classement et donc barragistes. Notre consultant Alain Roche voit mal ce qui pourrait empêcher l'OM de s'imposer.
J'y crois parce que dans une saison, il y a des périodes où il y a une excellente dynamique, c'est le cas en ce moment. Elle est capable d'aller s'imposer à Metz qui a des grandes difficultés, hein, alors que l'Olympique de Marseille est dans une grande forme, surtout cette équipe a repris confiance en elle, elle a confiance dans son entraîneur. Tous ses joueurs sont revenus de suspension ou de blessure. Elle devrait en tout cas s'imposer à Metz lors de ce déplacement en Lorraine.
Alain Roche avec Cyril de la Morinerie. Metz-Marseille, coup d'envoi à 17h30 hier soir. Lille s'est imposée 1-0 face à Montpellier. Les Lillois se maintiennent à la 3e place mais prennent leur distance avec Rennes. Ils comptent 4 points d'avance sur les Bretons qui ont 2 matchs en moins.
Et puis Christophe, il y a 5 autres matchs au programme de cette 18e journée.
Ils débuteront tous à 20h et vous pourrez les suivre dans le multiplex d'Europe 1 ce soir. Angers-Monaco, Amiens-Dijon, Nîmes-Nantes, Brest-Nice et Toulouse-Reims. Le football à l'étranger, le Bayern Munich n'est absolument pas intéressé par le projet de Super Ligue européenne semi-fermée. Une idée défendue par le président du Real Madrid et étudiée par la FIFA selon les informations du New York Times. Le dirigeant du Bayern, Herbert Heiner, trouve le format de l'actuelle Ligue des Champions convaincant en l'état.
La 4e journée de la Champions Cup de rugby, 5 clubs français sur les pelouses aujourd'hui.
Allez, on va commencer par un choc de géant entre Montpellier et Toulouse. La Rochelle se déplace à Glasgow, Clermont recevra Bath et Lyon se rend à Trévise. Le Loup qui poursuit son apprentissage de la Coupe d'Europe, mais cela n'empêche pas les ambitions, Simon Rubin.
Oui, il reste une infime chance aux Lyonnais de se qualifier en quart de finale. Hein, mais à vrai dire, aujourd'hui, les rugbymen du Loup n'y penseront pas vraiment. Ils vont surtout vouloir enchaîner, hein, maintenir la bonne dynamique de victoire. À l'aller contre Trévise, la semaine passée, les Lyonnais avaient largement dominé les Italiens. Il faudra faire de même aujourd'hui en Italie. L'idée, c'est de gagner, bien sûr, mais surtout de gagner largement pour obtenir un bonus offensif, histoire de mettre un peu la pression sur le Leinster qui joue dans la soirée. L'enjeu, c'est aussi de gagner ce deuxième match en Coupe d'Europe. Hein, ce serait le minimum pour cette équipe de Lyon qui continue sa découverte de la grande compétition européenne pour sa deuxième participation.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Allez, du ski.
Le slalom de Val d'Isère reporté en raison du vent. Il aura lieu demain. Première manche à 9h30, deuxième manche à 12h30. Le géant qui était lui aussi prévu ce dimanche est reporté à une date ultérieure et dans une autre station sans davantage de précision pour l'instant. À Saint-Moritz, Sofia Goggia remporte le Super G pour 1/100 devant une autre Italienne, Frederica Brignone. L'Américaine Michaela Schifrin complète le podium. Et puis à l'instant, le biathlon, la Coupe du Monde à Hochfilzen en Autriche. Le relais féminin revient aux Norvégiennes devant la Russie. La Suisse prend la 3e place. La France termine 7e.
Merci Christophe Lamarre. Et je rajoute un mot, puisque c'est Amandine Henry qui est la présidente du jury pour élire Miss France ce soir 2020.
La capitaine de l'équipe de France.
Et voilà,
quand même, même.
On retombe sur nos pieds. Merci beaucoup Christophe Lamarre. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi. Toujours 10 départements en vigilance orange dans le sud-ouest ce midi. Valérie Darmon.
Et oui, on le voit Fabienne, la situation météo se calme progressivement avec moins de vigilance, moins de vent, moins de pluie, moins de neige au fil des heures. Même si le risque d'avalanche va rester très élevé sur les Alpes du Nord toute la journée. Retour progressif à la normale dans notre ciel ce samedi. Le temps est humide avec de petites pluies de la Vendée aux frontières de l'Est et des averses épisodiques sur le Nord-Ouest où le vent souffle encore aux alentours de 90 km/h en bord de Manche et en direction des Hauts-de-France. Une amélioration se dessine aussi dans le Sud-Ouest et près de la Méditerranée où le soleil est bien sûr plus généreux qu'ailleurs. Le redoux s'installe avec des valeurs cet après-midi entre 9 à Embrun et 20 degrés à Nice, 11 annoncés à Boulogne-sur-Mer et à Lyon, 12 degrés à Troyes et à Paris, 13 degrés à Nantes et à Nevers ainsi que Strasbourg, 16 à Saint-Girons et 18 à Marseille.
Merci Valérie Darmon et dans quelques instants on vous retrouvera pour la météo des neiges et là ce qui nous inquiète ce sont les avalanches dans les Alpes du Nord. À suivre, on en est au 10e jour de grève à la SNCF et à la RATP, mais pourquoi en est-on arrivé à une telle situation de blocage? On va poser la question à Laïla de Comarmont, journaliste aux Échos, spécialiste des questions sociales et auteur des 20 ans qui ont changé la CGT chez De Noël. Elle est mon invitée.
Il est midi 50, le journal de la mi-journée se poursuit à présent avec votre témoin de la semaine, Fabienne Lemoyle.
Et donc, 10e jour de grève à la SNCF et à la RATP et la situation semble plus bloquée que jamais. Même si Édouard Philippe a lancé un appel au syndicat pour venir discuter avec lui de la réforme des retraites à la Matignon, la grande question désormais c'est y aura-t-il des trains à Noël avec le patron de la SNCF qui demande aux cheminots de faire une pause pour que les familles se retrouvent. Bonjour Laïla de Comarmont.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions sociales au journal Les Échos, auteur d'un livre qui fait référence sur la CGT, les 20 ans qui ont changé la CGT chez De Noël. Alors je ne vais pas vous demander si les trains vont rouler à Noël, mais vous qui observez depuis des années ces conflits qui mettent aux prises les syndicats et l'exécutif, qu'est-ce qui explique qu'on en soit arrivé à ce qui apparaît comme une vraie situation de blocage, alors que pourtant la concertation sur les retraites, elle a été lancée il y a plus d'un an et demi?
C'est peut-être un des éléments. La concertation, elle a été lancée depuis plus d'un an et demi. On a une forme de concertation tronc, enfin comme le Téléthon. C'est-à-dire que le gouvernement, d'ailleurs, vous remarquerez régulièrement, comme sur les ordonnances travail, dit on a concerté tant d'heures, on a fait tant de réunions. Et puis la méthode des bilatérales, elle accroît d'ailleurs le chiffre. On franchit record sur record.
C'est-à-dire que là, je crois que vous aviez fait les comptes, on est à plus de 300 heures de concertation,
ben,
c'est ça ?
Je suppose, avant même que la dernière ligne droite soit atteinte, on était à 140 heures. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait un dialogue social productif ?
Si je vous entends, la réponse est non.
La réponse est non, parce que on est dans une situation en fait où ceux qui ont joué le jeu de la concertation, je pense à la CFDT, ont le sentiment d'avoir été trompés. Alors, il y a un contentieux sur ce sujet-là. Il y a un contentieux très fort sur l'assurance chômage. Vous vous souvenez, le gouvernement donne une lettre de cadrage qui est vraiment fermée. Et puis, les partenaires sociaux échouent à négocier. Et le gouvernement reprend la main. Et ce contentieux-là, de cette reprise en main sur l'assurance chômage, pèse énormément sur les retraites, d'autant qu'après ce concertatron, on peut dire, qui est un drôle d'ovni, on se retrouve avec une CFDT qui a affirmé et réaffirmé qu'il y avait un point sur lequel elle ne transigerait pas. Et au final, dans le discours du Premier ministre, c'est un des éléments forts de cette réforme.
Mais pourtant, Édouard Philippe a appelé les principaux leaders syndicaux, justement après son discours au Conseil économique et environnemental. Il les appelle à venir à Matignon discuter avec lui.
Oui, est-ce que c'est du chaud? Est-ce qu'après le froid, le chaud? Parce qu'en même temps, dans son discours, même s'il explique qu'il refuse d'employer une rhétorique guerrière, eh ben, n'empêche qu'il sait très bien que ce qu'il annonce ne peut pas être accepté, y compris par la CFDT, bien que cette réforme systémique, elle l'ait rêvée depuis 10 ans. Donc, est-ce que c'est du chaud? Est-ce que c'est de la mise en scène?
On a une déclaration dans les jours qui viennent, effectivement. Vous me rappeliez, Laïla de Comarmont, qu'en 2010, Nicolas Sarkozy, lui, était carrément, il l'assume d'ailleurs, passé hors l'accord des syndicats pour allonger le départ à la retraite.
Oui, mais c'était, j'allais dire, presque un contrat dès le départ. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la décision de relever à 62 ans l'âge de départ en retraite, on ne fait pas une grande discussion autour du sujet. Alors, évidemment, il faut quand même reconnaître que c'est beaucoup plus simple d'allonger à 62 ans. C'est une mesure simple.
Que de réformer complètement l'ensemble
voilà,
du système.
Du système.
Donc, comme l'a promis Emmanuel Macron.
Voilà, exactement. Donc il y a cet élément-là à prendre en compte. Mais pas seulement. C'est-à-dire, quand vous discutez avec des anciens de cabinet ministériel de l'époque, ils vous disent sciemment, on savait que... Et on a pris la décision, très clairement, de se passer d'accords syndicaux. Il y avait une unité syndicale contre cette réforme-là. Il y a eu plusieurs fois 1 million de personnes dans la rue contre H Police. Et ils sont restés.
Plus qu'aujourd'hui. Pour l'instant. Comment on sort de cette situation de blocage? Sachant que les syndicats, de leur côté, jouent gros aussi.
Oui, les syndicats jouent gros, mais il y a un élément...
Parce qu'on se souvient
que
la CGT a été très marquée par le conflit de l'an passé, qu'elle a perdu en quelque sorte avec une grève, où elle n'avait pas voulu braquer justement les usagers. Est-ce que c'est pour ça que justement c'est un peu plus radical cette année?
Alors comment on sort de ce blocage? La radicalité, c'est très important de le souligner, parce qu'on a eu l'effet gilet jaune, et cet effet gilet jaune, il existe aussi dans les syndicats. C'est-à-dire que vous avez une base qui est très remontée. Alors,
c'est la base qui dicte la loi?
Une gilet jaunisation, on pourrait dire. Et donc, les gens, c'est eux qui décident de faire grève. Hein. On n'est plus dans des organisations pyramidales, si tant est qu'on l'ait jamais été. Alors, c'est à relativiser dans la mesure où, quand même, aujourd'hui, le secteur privé ne fait pas grève. Hein. Il y a quelques poches de contestation, mais on n'est pas du tout dans ce phénomène-là.
Les régimes spéciaux, effectivement, SNCF, RATP, qui sont en première ligne.
Oui, mais en même temps, on est vraiment sur quelque chose qui est très fort. Et tout le monde a conscience que ce qui se joue, c'est la bataille de l'opinion. On y reviendra sans doute sur « y aura-t-il des trains à Noël ?» Mais les syndicats aussi ont conscience de ça.
Justement, une dernière question. Est-ce que les syndicats sont prêts à entendre l'idée de faire une trêve à Noël?
Alors, il n'y a pas que M. Farandou qui y pense, et c'est un sujet auquel les syndicats ont pensé dès le départ. Le timing n'est pas très bon, mais le timing, il est celui-là. Faire une trêve, il y a toujours l'inquiétude de reprendre le mouvement. Maintenant, il faut savoir que c'est des choses dont on ne peut pas parler aujourd'hui. Vous avez le pic de mobilisation qui s'annonce mardi. Vous avez également le Premier ministre qui a dit qu'il rencontrerait les syndicats et le patronat ensuite. Vous avez des discussions qui, formellement, ont démarré à la SNCF, mais qui, en réalité, le dialogue ne s'est pas noué et on ne connaît pas le mandat qu'aura le PDG pour essayer de trouver une sortie par le haut, parce qu'il faut avoir bien conscience, je vous ai parlé de la base, qu'après l'échec de 2018, c'est un énorme enjeu pour les syndicats.
Merci beaucoup Laïla de Commarmont. Je rappelle, spécialiste des questions sociales aux Échos. Et on voit tous les enjeux qui se nouent derrière effectivement ce conflit qui dure depuis 10 jours maintenant. Vous le savez, à 13h, on a Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1, témoignage exceptionnel sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. A tout de suite.
Avec les pneus hiver Hankook, aux performances optimales, partez au ski en toute sécurité. Hankook vous présente la météo des neiges.
Et Valérie Darmon, vous nous dites attention aux avalanches.
Et oui, sur les Alpes du Nord, le risque est de 4 sur 5 toute la journée. Sur les Savoies et l'Isère, les grosses chutes de neige et le redoux ne font pas bon ménage. Dans les Vosges et le Jura, le soleil revient. Sur le Massif central, attention à la dégradation nuageuse et pluvieuse qui dure. Fort risque de pluie ou d'averse cet après-midi sous un ciel chargé. Quelques éclaircies et un temps plus sec peuvent revenir en toute fin de journée par le nord sous une relative douceur des températures. 11 annoncées au Lioran et 13 entre Superbès et le Mont d'Or. Sur les Pyrénées-Orientales, temps nuageux avec quelques précipitations en cours de journée, plutôt vers le Canigou, mais pas de grosses chutes de neige annoncées aujourd'hui. Une limite pluie-neige qui fluctue aux alentours de 1800 mètres.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Il est 13h01. L'essentiel de l'info sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
La SNCF promet d'acheminer la moitié des voyageurs pour les départs en vacances de Noël. Déclaration de la directrice générale dans Le Parisien ce matin, alors que le patron de la SNCF a demandé dans une vidéo interne aux cheminots de faire une pause pour que les familles puissent se retrouver au moment des fêtes. Pour aujourd'hui, le trafic reste très perturbé. Côté SNCF, un TGV sur 4, 3 TER sur 10, un Transilien sur 6. Côté RATP, les métros ne roulent qu'entre 11h et 18h sur les lignes qui fonctionnent. 10 sont toujours à l'arrêt. Côté des bus, c'est 60% du trafic qui est assuré. 14 départements en vigilance orange, notamment 10 dans le sud-ouest à cause des inondations, des intempéries qui ont fait un mort et 5 blessés. Un automobiliste de 70 ans s'est tué hier en fin de matinée en percutant un arbre. Et dans le Lot-et-Garonne, un homme de 76 ans est porté disparu. Enfin, au Havre, l'incendie qui a touché cette nuit la raffinerie Total de Gonfreville-Lorcher est désormais sous contrôle. Pas de victimes et ce sont des équipes du pétrolier qui ont en interne maîtrisé le feu.
Retour de l'info de ce samedi 14 décembre dans une heure.
Europe 1.